Pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire vraie. C'était à l'occasion d'un colloque de bioéthique à Paray-le-Monial en 2002. Il y avait à peu près 400-500 personnes. Un jeune retraité, ancien chef de service de gynéco-obstétrique, se lève à la fin d'une conférence sur le handicap. Voilà, au moment des questions-réponses. Il raconte combien c'était difficile à chaque découverte de handicap chez un enfant in utero, et que dans certains cas, il paraissait légitime à son équipe et à lui de faire une interruption médicale de grossesse. Et par exemple, pour un enfant à qui il manquait 3 membres sur 4, la vie serait trop douloureuse et difficile. Pour son entourage et pour lui-même, il valait mieux proposer un avortement. « Qu'en pensez-vous ? » nous disait-il. « Qu'auriez-vous fait ?» À ce moment-là, il y a un homme dans l'assemblée qui se lève et nous raconte ce que son fils de 11 ans lui avait dit récemment. Son fils à qui il manquait 3 membres. « Tu sais, papa, ce qui me fait le plus souffrir, c'est que mes parents ne m'aient pas aimé tel que j'étais. » Cet enfant avait été abandonné à la naissance à cause de son handicap et cet homme l'avait adopté avec sa femme. Puis il se rassit. Alors nous étions tous très touchés car nous nous demandions comment répondre à ce médecin qui demandait finalement quel était le bien à faire dans ces cas-là. Et touché par la réponse de cet homme, il n'y avait pas de jugement, juste un rappel de ce petit garçon qui finalement est un rappel pour tout le monde. C'était d'être aimé comme on est, voilà, sans condition. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de chercher des repères, des arguments pour discerner. Bien sûr, ce ne sera pas un argumentaire comme ça à asséner à la première personne rencontrée. Hein. Mais plutôt essayer d'être témoin de la vie, témoin du sens qu'a notre vie. Alors, on va aborder les questions maintenant. Donc, première question. Une femme enceinte tentée par l'avortement dit à son médecin « Docteur, à ce stade, ce n'est encore rien. » Alors, finalement, la question sous-jacente est « Quand commence la vie d'un être humain ?» Alors, avant de voir le commencement de la vie, on va faire juste un petit quelques repères sur la vie elle-même. Voilà, la vie est un don. Ça, qu'on soit croyant ou pas, qu'on soit hindou, américain ou chinois, c'est pareil. Personne s'est fabriqué lui-même. Cette vie, on la reçoit. Et parfois, et ben voilà, il faut qu'on l'assume. La vie humaine est sacrée parce que dès son origine, elle comporte l'action créatrice de Dieu. Voilà. Et ce caractère sacré fonde, ça c'est dans Donum Vitae, je citerai plusieurs fois Donum Vitae, donc c'est l'instruction sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation, voilà, qui a été fait par la Congrégation pour la doctrine de la foi. En quelle année ? En 1987. Mais il y a une mise à jour avec Dignitas Personae, voilà. Donc voilà, la vie est un don, on la reçoit, et en plus, elle est sacrée, et ce caractère sacré va fonder l'inviolabilité de la vie humaine. Voilà, cette vie qui est don de Dieu a une valeur intrinsèque, ce qui entraîne un droit au respect de son existence. Alors la vie est un droit, je passerai, mais c'est quand même dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. La vie est un bien. La vie est toujours un bien, nous dit Jean-Paul II. La vie est toujours un bien parce qu'elle manifeste, en fait, la présence de Dieu. Est un signe de la présence de Dieu. Par contre, la vie n'est pas un bien absolu. On peut la perdre pour un meilleur bien. Et le meilleur bien est la vie éternelle. Voilà, à l'exemple du Christ qui nous donne sa vie sur la croix. Alors, quand commence la vie ? Ça, je pense que tout le monde a cette connaissance. Donc, l'origine de tout être humain, c'est à la fécondation, quand le spermatozoïde pénètre dans l'ovule. À ce moment-là, il y a un continuum absolu, voilà, de cet œuf, après du fœtus, embryon, fœtus, bébé, enfant, adolescent, vieillard, ça ne s'arrête pas. Le patrimoine génétique est stable. Alors, cet embryon, il a quelques caractéristiques, comme on a vu d'ailleurs hier, hein, parce qu'on l'a vu pour la personne humaine, donc c'est valable aussi pour l'embryon. Donc il y a une spécificité d'espèce. Un spermatozoïde humain qui rencontre un ovule humain, ça ne donnera jamais une grenouille ou un éléphant. Ça donnera toujours un être humain. Voilà. Après, l'unicité, on a vu, on est un, unique. Unique, on est unique par le patrimoine génétique, par nos gènes. L'unité, on est un individualisable. Ce n'est pas l'embryon n'est pas une excroissance du corps de la mère, par exemple. Hein. C'est vraiment la mère porte un corps autre que le sien. Il y a une continuité. C'est un être organisé. Voilà, dès les premiers stades de son développement, il va y avoir des processus biologiques qui va être à son. C'est l'embryon lui-même qui va donner les instructions pour son propre développement. C'est important de savoir ça. C'est-à-dire qu'il y a une certaine autonomie de l'embryon. Il a besoin, bien sûr, des conditions physico-chimiques, biochimiques, comme tout à chacun. On a besoin de manger, d'avoir une certaine température pour vivre. L'embryon, ça va être pareil. Il aura besoin de certaines conditions pour se développer, mais c'est lui, à l'intérieur de son génome, de ses gènes, qui aura les instructions, les signaux pour son propre développement. Alors, quelques étapes de l'embryogenèse. Donc, au sixième jour, donc la fécondation se passe dans les trompes de Fallope. Au sixième, le temps que l'œuf arrive dans l'utérus, à peu près le sixième jour, on appelle ça la nidation. Le 21e jour, le cœur bat, donc à 3 semaines à peu près. La septième semaine, les membres se forment. Voilà, les doigts, la bouche, les oreilles. 8e semaine, il y a le cerveau, tout est organisé, il y a tous les organes, on appelle ça maintenant un fœtus, il n'a plus besoin, tout est déjà là, il n'y a plus qu'à grandir. Mais revenons à cette femme qui dit que. Ah oui, alors là, c'est quelques photos, voilà, c'est pour le plaisir. Donc voilà, 5 semaines, 9 semaines, voilà, tous les systèmes sont en place. Voilà, revenons à cette femme qui dit à ce stade, ce n'est rien. Alors on voit bien que ce n'est pas rien. C'est pas qu'un amas de cellules. Alors, c'est vrai, ce sont des cellules. C'est un ensemble de cellules, mais ces cellules, elles sont organisées entre elles, de manière très spécifique. Chaque cellule va avoir un propre rôle à jouer. Et là, par exemple, je vous ai mis un petit embryon de 3 semaines. C'est à peu près à ce moment-là que la femme se rend compte qu'elle est enceinte. Voilà, elle a pas ses règles, il y a un retard de règles, elle va faire son test ou sa prise de sang, et bon. Quand qu'elle prendra conscience qu'elle est enceinte, l'embryon aura 3 semaines et le cœur bat déjà à ce moment-là. Et puis d'ailleurs, quand une femme fait une fausse couche, on ne dit pas qu'elle a perdu un amas de cellules. Hein. On dit qu'elle a perdu son bébé. Donc n'essayons pas, attention de ne pas, pas nous, mais on peut le faire aussi, de transformer la réalité en fonction de nos propres désirs. Voilà. Essayons d'avoir un regard sur la réalité et d'apprendre de cette réalité. Alors, je passerai rapidement parce que ça, on l'a abordé hier. L'embryon est-il une personne ? Donc, je passerai rapidement. Juste, l'Église rappelle que tout être humain a la dignité d'une personne à partir du moment où elle existe, dès sa conception. Comme nous dit Donum Vitae, comment un individu humain ne serait-il pas une personne humaine ? Voilà. À nous de renvoyer la question aussi à ceux qui nous disent que ce n'est pas une personne. Alors, quelques points sur la loi en France, sur l'avortement. Alors, dans notre droit français, il y a 2 catégories. Hein. Il y a les choses et les personnes. Et les personnes, une personne, elle est née vivante et viable. Voilà. Et elle dispose à ce moment-là d'une personnalité juridique, un statut. Voilà. Donc, pour l'embryon, il n'y a pas de statut. Voilà. Par contre, il y a une protection juridique. Dans l'article 16 du Code civil, il est dit « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. » Dès le commencement de la vie. La vie commence à la fécondation. Donc ça, c'est reconnu dans notre droit. Il y a une protection. Voilà. Alors, maintenant la loi Veil. La loi Veil, en 1975, elle reprenait justement cet article 16. La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Et elle y a introduit une exception. au principe de la protection de l'embryon, qui est qu'en cas d'extrême nécessité, c'est-à-dire en cas de détresse pour la femme, elle peut demander une interruption de grossesse. Voilà, mais là, il y a une évolution encore avec la loi Oubry qui abroge ce premier article. Et bon, il y a entre autres, il y a une suppression. Voilà, et on supprime l'autorisation parentale. Donc les mineurs peuvent avorter en présence d'un adulte majeur, mais pas forcément avec l'autorisation parentale, s'ils ne le souhaitent pas. Et aussi, il y a l'entretien qui était obligatoire, préalable, avec un psychologue ou une conseillère conjugale, devient facultatif pour les majeurs. Voilà, maintenant c'est remboursé à 100% par la Sécurité sociale depuis mars 2013. Alors, et l'IMG est légal en France. Donc l'IMG, c'est l'interruption médicale de grossesse, soit en cas de... quand la mère est en danger, soit quand il y a une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité. Voilà, reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Donc c'est assez précis, mais voilà. Après, il y a toute une liste qui rentre... Alors, la dignité de la personne humaine dans notre loi... Dans notre loi, la dignité de la personne humaine est reconnue comme un principe à valeur constitutionnelle. C'est important aussi de prendre en compte que notre loi reconnaît la dignité humaine. C'était dans la loi relative à la bioéthique de 1994. Il était dit « Tout être humain possède des droits inaliénables et sacrés ». Il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Voilà. Donc ma dignité, la dignité de la personne, est une notion objective. Elle n'est pas subjective, elle n'est pas dépendante du regard que j'en ai. Voilà. Il y a des jurisprudences dans la loi, mais je vais passer. Mais voilà, la loi reconnaît que la dignité de la personne est objective. Donc, même si vous ne vous respectez pas, vous n'avez pas cette liberté-là, quelque part, de ne pas vous respecter. La loi sera pour votre dignité, de votre côté, de la dignité. Bon, par contre, on voit bien qu'avec la loi sur l'avortement, ce principe de dignité, il y a une exception. C'est-à-dire que normalement, le principe de dignité est prima au principe de liberté. Je n'ai pas le droit, je ne suis pas libre de tuer mon voisin. D'accord ? Je ne suis pas libre de tuer mon voisin. Parce que justement, la dignité, je lui dois respect parce qu'il est digne. Et c'est au-dessus de ma propre liberté. Bon, mais là, dans la loi sur l'avortement, c'est une exception à ce principe de dignité, justement. On donne une dérogation. Et là, à ce moment-là, on est renvoyé à notre conscience. Et c'est pour ça que dans la loi, il y a une clause de conscience qui est donnée au personnel médical qui est concerné. C'est important de le savoir pour ceux qui travaillent en service gynéco-obstétrique. Ce sont les médecins qui sont concernés, mais aussi les sages-femmes, les infirmiers, les auxiliaires médicaux. Voilà. Nul n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse. Donc vous pouvez demander la clause de conscience, voilà, qu'on ne peut pas vous refuser. Oui, c'est pas pour les chefs de service, pour les médecins, mais qui... Oui, ça c'est dans la nouvelle loi, Aubry. Ils l'ont enlevé pour la... Ils n'ont plus de clause de conscience pour les chefs de service. Voilà. Par contre, les établissements privés ne sont pas tenus d'avoir de pratiquer des IVG. Bon. Donc voilà, il y a une clause de conscience, c'est important de le savoir. Par contre, les pharmaciens, eux, n'ont pas de clause de conscience, alors que, et a été introduite aussi dans la loi Aubry, l'IVG médicamenteuse, donc la pilule abortive, le RU 486. Donc là, les médecins, ils sont obligés de vendre, les pharmaciens, pardon, sont obligés de vendre. Donc le subterfuge, c'est qu'ils ne sont pas obligés d'en avoir en stock. Voilà. Donc si vous n'en avez pas en stock, vous ne pouvez pas en vendre. Mais on ne peut pas vous pénaliser parce que vous n'en avez pas en stock. Par contre, si vous en avez en stock, vous êtes obligé d'en vendre. Voilà. Voilà. Alors, vous êtes obligé d'en commander si on vous le demande. C'est assez subtil, mais si on ne vous demande rien, vous laissez passer quoi. Voilà. Alors, juste pour la clause de conscience, comme la loi sur la recherche sur les cellules embryonnaires vient de passer et autorisée, il y a aussi une clause de conscience. Nul n'est tenu, aucun chercheur, aucun technicien, aucun médecin n'est tenu de travailler sur les cellules embryonnaires. Ça, c'est dans la loi de bioéthique du 7 juillet 2011. Voilà, alors quelques chiffres. Donc un avortement pour 3 naissances, donc 1 sur 4. 220 000 avortements en France, à peu près. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que 72% des femmes qui avortent sont sous contraceptifs. Voilà. Et il y a 6 500 IMG par an. Oui, on voit très clairement qu'il y a un lien entre les deux. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, la souffrance post-avortement. Alors, pendant longtemps, cette souffrance a été niée parce que c'était justement une libération de la femme. C'était mon choix, je pouvais faire ce que je voulais de mon corps, et donc je n'en avais pas à souffrir. Voilà. Et depuis peu, bien sûr, on voit bien que si vous baladez un peu sur les blogs là, féminin, au féminin.com, voilà, vous verrez le malaise et la grande souffrance de ces femmes qui ont avorté. Elle commence à être reconnue par la société médicale. Il y a des études, des publications qui sont faites sur le syndrome post-avortement. Voilà. Et c'est bien parce que ça ouvre un chemin pour ces femmes dont on reconnaît la souffrance, qu'elles peuvent se permettre de souffrir. Et à ce moment-là, un chemin peut s'ouvrir, un chemin de vie peut s'ouvrir, est possible. Voilà. Et donc il y a quelques associations que je pense que vous connaissez, comme AGAPA, Mère de Miséricorde. La vigne de Rachel, vous connaissez la vigne de Rachel? Ouais? Non? Bon, allez voir le site. Ça vient des États-Unis, ça a 30 ans d'âge, mais chez nous, ça vient d'arriver. Maintenant, Mère de Miséricorde fait des sessions de la vigne de Rachel, mais autant Agapa, c'est une prise en charge, enfin un accompagnement psychologique, autant la vigne de Rachel va être bien plus en profondeur dans la guérison tout entière de la personne. Spirituel, quoi, vraiment. Voilà. Et puis, vous connaissez donc aussi Jean-Paul II qui s'adresse aux femmes qui ont avorté. Vous connaissez dans l'évangile de la vie? Oui, non? Ok, alors je vous le dis. Voilà, Jean-Paul II qui s'adresse aux femmes avec beaucoup de miséricorde. Je voudrais adresser une pensée spéciale à vous, femmes qui avez eu recours à l'avortement. Je vous lis ce texte parce que c'est important. On dit toujours l'Église est contre ceci, cela, machin. En fait, ce qui est important, c'est de connaître vraiment la parole de l'Église. Et la parole de l'Église, elle est tout autre. Il n'y a aucun jugement porté sur les femmes qui ont avorté. Et elle est miséricorde. Alors, je vous lis. L'Église sait combien de conditionnements ont pu peser sur votre décision. Et elle ne doute pas que dans bien des cas, cette décision a été douloureuse et même dramatique. Il est probable que la blessure de votre âme n'est pas encore refermée. En réalité, ce qui s'est produit a été et demeure profondément injuste. Mais ne vous laissez pas aller au découragement et ne renoncez pas à l'espérance. Sachez plutôt comprendre ce qui s'est passé et interprétez-le en vérité. Si vous ne l'avez pas encore fait, ouvrez-vous avec humilité et avec confiance au repentir. Le Père de toute miséricorde vous attend pour vous offrir son pardon et sa paix dans le sacrement de la réconciliation. C'est à ce même Père et à sa miséricorde qu'avec espérance, vous pouvez confier votre enfant. Numéro 99 dans l'évangile de la vie, si vous voulez le reprendre. Voilà. Alors, la deuxième question. Alors, vous êtes enceinte depuis plusieurs mois. Vous vous réjouissez de donner un petit frère ou une petite sœur à votre aîné qui a 2 ans. Ce bébé qui arrive, vous le sentez bouger, vous communiquez avec lui, c'est formidable. Et une échographie montre que l'enfant est porteur d'une grave malformation. Et le gynécologue vous propose assez vite une IMG. Voilà. Pensez-vous qu'il y ait d'autres alternatives? Comment savoir ce qu'il faut faire? Alors, c'est vrai, c'est une vraie souffrance quand on se réjouit d'attendre un bébé, d'apprendre qu'il est mal formé, qu'il y a un handicap. Voilà. Jean Vanier insiste sur le fait que c'est vraiment normal d'être déçu. Alors, cela nous renvoie à une question toujours la même. Est-ce qu'on va aimer l'autre pour ses qualités ou est-ce qu'on va l'aimer pour lui-même? Voilà, finalement, comment j'accueille mon enfant? Est-ce que j'accueille mon enfant comme il est? Un père de famille nous faisait cette réflexion après la suspicion d'une trisomie 21 chez son enfant, suspicion non confirmée par la myosynthèse. Il nous disait « Je suis indigne d'être le père de cet enfant. J'ai laissé vérifier si mon enfant a été conforme avant de l'aimer. » Voilà, il s'en va. Alors on voit bien l'enjeu de l'amour inconditionnel dans notre société. Toutes nos décisions que l'on prend va retentir sur cette société tout entière. Alors si la société autorise légalement la suppression d'enfants handicapés avant leur naissance, c'est déjà une violence extrême pour les personnes handicapées qui sont là, qui vivent avec la même maladie. Alors elles peuvent se poser la question, mais alors quel est le sens à ma vie? Est-ce que j'ai le droit de vivre moi aussi? Puisque finalement on permet que les enfants qui ont la même maladie que moi soient supprimés. C'est une très grande violence. On a le témoignage d'Isabelle de Mézrach, là, dans le livre « Un enfant pour l'éternité ». Elle nous témoigne, elle a 45 ans, elle attend son cinquième enfant. Et au bout de quelques semaines, il y a des lourdes malformations qui ont été diagnostiquées. Voilà, laissant présager une mort juste après la naissance. Donc elle a décidé avec son mari de garder cet enfant et de l'accompagner sur ce chemin pour cette courte vie. Il est mort 45 minutes après la naissance. Ce n'est pas facile de faire ce choix. Et pourtant, elle nous témoigne que l'accueil de l'enfant vivant peut parfois entrelacer ces moments de douleur morale à d'indicibles instants de joie, ce qui jamais ne pourra se produire dans un cadre d'un avortement médical. Voilà, ces familles qui ont décidé de garder leur enfant ont ce sentiment d'avoir été finalement jusqu'au bout, d'avoir fait ce qu'ils avaient à faire en tant que parents, d'accompagner leurs petits jusqu'au bout. Alors que faire dans ces cas-là, quand on se retrouve dans cette situation? Déjà, ne restons pas seuls. Entourons-nous de personnes qui peuvent nous éclairer, nous écouter déjà, nous accompagner sur ce chemin. Voilà, c'est Laurent Landette, là-haut, d'un écologue de bioéthique, donc le modérateur de la communauté de l'Emmanuel. Leurs deux premiers, ils ont deux enfants handicapés, les deux premiers. Et il nous témoignait comment ça avait été. Donc il y avait eu des hospitalisations dans le début de vie. Ils avaient été soutenus par les frères, par les chrétiens qui priaient jour et nuit, qui se relayaient devant le Saint-Sacrement jour et nuit pour eux. Ils avaient été très touchés, ils avaient été soutenus par cette prière, ils avaient été soutenus par la parole de Dieu, voilà, qui leur donnait un sens à cette souffrance qu'ils vivaient. Donc ne restons pas seuls. Prenons le temps de la réflexion. Il n'y a jamais une urgence médicale, très rarement. Il y a rarement une urgence médicale. Donc prenons le temps de réfléchir. Même si on se retrouve finalement à l'hôpital sur un chemin où finalement tout va vite, on a notre temps. Et puis concernant un diagnostic d'une maladie qui entraîne la mort du fœtus, sachons qu'il existe des soins palliatifs. Voilà, pour accompagner ses parents, les parents sur ce chemin. Voilà. Le professeur Emmanuel Sapin, là, à Dijon, qui est chirurgien pédiatre, me disait que finalement, les soins palliatifs, ça consistait déjà à respecter le choix de la famille de garder l'enfant. Il me disait, c'est difficile de respecter ce choix, car ce n'est pas confortable. Cela dérange. Et l'IMG est plus simple pour le personnel soignant. Alors, sachez qu'il y a des soins palliatifs. Et puis, si ça peut être aussi au-delà de nos forces de garder un enfant handicapé. Et à ce moment, il n'y a vraiment pas de jugement moral. Un autre chemin pourrait être proposé, c'est celui de l'adoption. L'adoption de cet enfant. Nous connaissons plusieurs amis qui ont adopté des petits-enfants trisomiques. Et donc l'une d'elles me disait, après leurs 5 enfants, elle fit 2 fausses couches. Je demandais la consolation au Seigneur, sachant que je n'avancerais pas par mes propres forces. Je reçus alors l'intuition très claire que le Seigneur avait un autre projet pour notre famille, celui d'accueillir un enfant sans famille de fait de sa maladie ou de son handicap. J'en parle immédiatement à mon mari qui, lui, était prêt depuis 8 ans. Vous voyez comme les projets aussi changent. On a des idées dans la tête et puis après il y a un autre chemin qui se dessine. Voilà, il y a un petit Loïc qui arrive dans leur famille. Et elle nous dit, Loïc devient très vite la chair de ma chair, au même titre que mes enfants biologiques. Voilà, aujourd'hui il a 10 ans, il marche, il court, il fait du ski, il a ses copains. Elle nous disait, voilà, vivre avec un enfant handicapé, c'est certes une école de patience, c'est vivre dans le présent, apprécier les moindres progrès, appliquer la politique des petits pas, apprendre à vivre certes avec le monde médical, mais surtout avoir tout ce qui est bon autour de nous et dans chacun de nous. C'est important, voilà, dans ces situations, de garder une main qui tient la vérité et une autre main qui tient la miséricorde, et de ne pas lâcher les deux, d'avoir toujours les deux ensemble. Voilà, Emmanuel Sapin qui me racontait que face à une femme qui lui demandait « Mais docteur, qu'est-ce que vous feriez à ma place ?» qui avait un désir d'avorter, au bout de la troisième question qu'il essayait d'éluder, lui, il se lève, il enlève sa blouse, et puis il dit « Moi, je le garderai. » Et puis il remet sa blouse, et il continue sa consultation, comme si de rien n'était. Et bien, donc, cette femme, elle a décidé d'avorter, elle l'a avorté, il l'a accompagnée sur ce chemin, mais il a été vrai aussi. Donc, il y a vérité et miséricorde. On ne peut pas décider à la place des autres. Donc, nous qui sommes à Paray-le-Monial, dans la ville du cœur de Jésus, n'hésitons pas vraiment à puiser cette miséricorde dans son cœur. Voilà, pour aimer vraiment en acte et en vérité. Alors, troisième question. Vous attendez un bébé ? Ah là 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 là. Vous attendez un bébé ? Vous attendez un enfant désiré. Lors de la consultation, le médecin vous propose un test sanguin de dépistage de la trisomie 21. Donc aujourd'hui, le dépistage est proposé obligatoirement à toutes les femmes. Par contre, on n'est pas obligé de l'accepter. Voilà. Alors, juste pour faire... le diagnostic prénatal, c'est l'ensemble des pratiques qui ont pour but, voilà, de détecter in utero une affection d'une particulière gravité. Alors, il y a un ensemble de moyens pour détecter. Il y a le dépistage d'un côté, le diagnostic de l'autre. Le dépistage va évaluer un risque d'avoir telle ou telle maladie, et le diagnostic va mettre un nom sur la maladie. D'accord ? Et dans le dépistage de la trisomie 21, on va prendre trois facteurs. Il y a l'âge de la mère, il y a le test sanguin pour doser les marqueurs sériques qui vont donner une probabilité, et il y a aussi l'échographie avec la mesure de la clarté nucale. Tout ça est mis dans un logiciel, on calcule une statistique, une probabilité. Et si la probabilité est égale à 1 sur 250 ou plus, on propose à la femme de faire une amniosynthèse. Voilà. Là, on rentre dans le diagnostic. Alors, sachant que s'il y a un risque, 1 sur 250, ça veut dire que il y a 250 femmes. Sur 250 femmes, il y en a une qui est vraiment porteur d'un enfant atteint de trisomie 21. Et il y en a deux autres qui font une fausse couche due à l'amniosynthèse. Voilà, parce qu'il y a à peu près 1% de fausses couches lors de cette technique. Quelques chiffres. Non, je n'ai pas parlé du nouveau test. Oui. Et alors maintenant, il y a un nouveau test qui va bientôt arriver en France, qui est déjà dans quelques pays, qui est en fait de faire juste un prélèvement sanguin à la femme, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des cellules fœtales qui circulaient. Et donc on pouvait directement, sans passer par l'amniosynthèse, voir si faire le diagnostic direct, juste par prise de sang. Donc ce test va bientôt arriver. L'avantage, c'est qu'effectivement, on ne passe plus par l'amniosynthèse. D'ailleurs, c'est dit dans les articles que c'est dangereux. On ne vous en parle pas. Hein. On vous a jamais dit que l'amniosynthèse est dangereuse. Mais pour faire passer ce test sanguin, on vous dit que c'est dangereux, l'amniosynthèse. Donc, c'est vrai, c'est un côté positif. Alors, je vais dire ça. Donc, ce test est plus efficace pour dépister les fœtus trisomie 21, plus précoce car il permet d'éviter une IMG tardive plus traumatisante, et moins dangereux car il éviterait de procéder à une amniosynthèse à l'origine de fausses couches. Voilà. Donc, on veut nous vendre ce test pour nous dire, bah voilà, effectivement, c'est bien, c'est mieux, on passe pas par l'amniosynthèse, et ça peut, dans certains cas, pour les parents qui veulent vraiment se préparer, savoir si l'enfant est handicapé et se préparer psychologiquement, eh ben c'est très bien pour eux. Le problème, c'est que voilà, comme on voit dans les chiffres là, Donc, c'était les chiffres de 2010. Il y a eu de diagnostiqués, il y a eu 1934 cas de trisomie diagnostiqués. Il y en a eu 96% qui ont été avortés. Voilà. Et donc, avec les tests sanguins, on les verra plus. Ça sera dans. Alors, est-ce une forme d'eugénisme ? Le professeur Didier Sicard, dans un entretien à l'époque, en 2007, il était président du Comité consultatif national d'éthique, disait, c'est intéressant sa remarque, « La France construit pas à pas une politique de santé qui flirte de plus en plus avec l'eugénisme. La vérité centrale est que l'essentiel de l'activité de dépistage prénatal vise à la suppression et non au traitement. » Ainsi, ce dépistage renvoie à une perspective terrifiante, celle de l'éradication. Alors, lors des derniers états généraux, en 2010, là, 2011, à l'époque, le Premier ministre François Fillon avait demandé au Conseil d'État, mais est-ce que ce diagnostic prénatal ne va pas contre le principe prohibant toute forme d'eugénisme ? Et le Conseil d'État avait répondu, l'eugénisme peut être désigné comme l'ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Il peut être le fruit d'une politique délibérément menée par un État et contraire à la dignité humaine. Il peut être aussi le résultat collectif d'une somme de décisions individuelles convergentes prises par les futurs parents dans une société où primerait la recherche de l'enfant parfait ou du moins indemne de nombreuses affections graves. Voilà, la réponse est assez explicite et montre bien que finalement, nos décisions personnelles, individuelles, quand elles vont tous dans un même sens, à savoir éviter une naissance d'un enfant non conforme à nos attentes, la somme de ces décisions entraîne inéluctablement une dérive eugéniste. Prenons conscience de ça. Enfin, je veux dire, c'est pas simplement d'un côté l'État qui est méchant et nous on essaye de se battre. Non, on a chacune nos propres décisions à prendre. Alors finalement, les questions à se poser, quel est le but de l'examen qu'on me propose ? Et est-ce qu'il y a une visée thérapeutique ? Alors quelques clés pour discerner. Il faut savoir que par nature, le diagnostic prénatal est neutre. Et rappelez-vous, dans la moralité d'un acte, un acte est bon, moralement bon, quand la finalité de l'acte est bon et quand l'objet de l'acte, les moyens qu'on va prendre, sont bons aussi. Hein. On a vu hier, la fin ne se justifie jamais les moyens. Même si on a une fin bonne et qu'on prend des moyens qui sont mauvais, l'acte est mauvais. Alors là, le diagnostic prénatal est neutre. Par contre, quelle est notre intention ? Quelle est notre finalité quand on pratique ces actes-là ? Si c'est pour, en fonction du résultat, procéder à un avortement, à ce moment-là, ce sera mauvais. Bien sûr, ça va aller contre la dignité humaine. Par contre, si on fait les diagnostics prénatals en vue d'une éventuelle prise en charge thérapeutique, in utero, à ce moment-là, ça sera bon. Voyez ? Donc, en fonction de la finalité, ça va changer la moralité de l'acte. Jean-Paul II aussi nous parle du risque disproportionné. Est-ce que le risque que je prends, par exemple, en faisant une amniosynthèse, est proportionné ou disproportionné par rapport à ce que j'apporte à l'enfant lui-même ? Dans le cas d'une trisomie 21, c'est encore une maladie qui est incurable. Donc, de toute façon, le savoir, on le saura, mais on ne pourra pas agir in utero. Donc là, à ce moment-là, ça devient disproportionné. Parce qu'il y a une chance sur 100, enfin, une malchance sur 100 de perdre l'enfant. Par contre, si c'est pour... intervenir au niveau une chirurgie sur une malformation ou je sais pas, là ça sera bon. On prend un risque, mais en même temps on apporte quelque chose à l'enfant pour qu'il soit, par exemple pour la spina bifida, c'est une maladie qui peut être prise en charge in utero et diminuer le degré d'handicap par rapport à une prise en charge à la naissance. Donc c'est important. Voilà, je terminerai par Mère Teresa qui dit. Quand elle a reçu le prix Nobel de la paix en 79. Le plus grand destructeur de la paix aujourd'hui, c'est le crime commis contre l'innocent enfant à naître. Si une mère peut tuer son enfant, son propre enfant, dans son propre sein, qu'est-ce qui nous empêche, à vous et à moi, de nous entretuer les uns les autres ? Prions tous d'avoir le courage de défendre l'enfant à naître et de donner à l'enfant la possibilité d'être aimé et d'aimer et d'être aimé. Et je pense qu'ainsi, avec la grâce de Dieu, nous pourrons apporter la paix dans le monde. La quatrième question concerne les fécondations in vitro. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc aujourd'hui, un couple sur sept est touché par l'hypofertilité. Voilà, c'est très fréquent. Un couple sur dix consulte, voilà, pour avoir des traitements. C'est une épreuve terrible, la source de très grandes souffrances. Ça concerne à peu près, il y a à peu près 200 000 enfants nés par ces techniques depuis une trentaine d'années. Alors, de quoi parle-t-on ? Bon, je vais passer assez rapidement. Insémination artificielle, je pense que vous connaissez tout ça. Donc là, ça consiste à déposer les spermatozoïdes directement dans l'utérus de la maman. Fécondation in vitro, c'est mettre en présence les gamètes, c'est-à-dire spermatozoïdes et ovules, ovocytes, dans un tube pour qu'elles fusionnent, voilà, naturellement. Et l'INCI, c'est un procédé où on injecte par une micropipette le spermatozoïde directement dans l'ovocyte. Voilà, alors il faut savoir qu'une dizaine de. Pour prélever les ovocytes, normalement, donc la mère, elle subit un traitement hormonal assez intensif, qu'on appelle stimulation ovarienne. On lui prélève une dizaine d'ovocytes. Et on conçoit une dizaine d'embryons. Ces embryons sont classés, triés. Les plus beaux de classe A, B, C. Les plus beaux, les A, ils vont être congelés. Parce qu'on se dit, les plus beaux, ils vont être plus forts. Ils vont passer l'étape de la congélation et de la consolation. Enfin, il y a plus de probabilité pour qu'ils passent l'étape de la congélation et de la décongélation. Après, il y a le type B, ils sont assez beaux. C'est eux qu'on transfère dans l'utérus de la maman. Puis les autres, ils sont moins beaux et après, on les jette. Alors, il faut savoir que le faire plus d'embryons, en France, on fait ça. On fait plus d'embryons pour que, justement, on permette après au couple, s'il y a un projet parental, de reprendre leur embryon. Il faut savoir que ça, c'est pas obligatoire dans une fécondation in vitro. Entre autres, en Italie ou en Allemagne, il n'y a pas d'embryons surnuméraires. Ils ne congèlent pas d'embryons du tout. Ils ont un autre historique aussi que le nôtre. Alors, diagnostic préimplantatoire. Le diagnostic préimplantatoire, c'est pour les couples qui ont une forte probabilité de transmettre une maladie génétique. Donc, pareil, il y a des embryons qui sont conçus et on trie les embryons en fonction. Enfin, on prélève une cellule d'embryon, on teste si l'embryon est porteur de la maladie et on met l'embryon qui est sain dans l'utérus de maman. Il faut savoir qu'il faut à peu près 20, statistiquement, il faut 29 embryons pour une naissance d'un enfant non porteur de la maladie. Et dans le cas du bébé des médicaments, dont vous avez entendu parler, le double diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire qu'il y a un double tri. Il y a d'abord un tri pour savoir si l'embryon il est porteur de la maladie, et s'il n'est pas porteur, on regarde s'il est compatible avec le frère et la sœur pour une éventuelle guérison de celui-ci. Voilà. Et là, il faut à peu près une centaine d'embryons pour avoir un enfant qui est né sans la maladie et compatible avec le frère ou la sœur. Alors, la législation, je vais passer vite. Juste pour vous dire que, voilà, alors la protection. Les embryons, il y a à peu près 170 000 embryons congelés pour un délai de 5 ans. Il y a un très grand malaise par rapport autour de ces embryons congelés. Bon, déjà, on met hors du temps un être humain. Le temps qui fait partie de notre nature humaine, on le met hors du temps. Donc déjà, là, il y a un malaise. Et puis, quand tous les ans, on demande à la famille qu'est-ce qu'elle veut faire. Donc la moitié des parents ne répondent pas. Voilà, c'est comme si on me demandait de sacrifier les frères et sœurs de mes enfants. Alors, il y a un malaise. Il y a une lettre adressée à l'Institut Jérôme Lejeune, là, que je trouve qui traduit bien ce malaise autour de cette réalité. Alors, maman d'une petite fille de 3 mois, conçue par FIV, je pense sans cesse aux 8 autres embryons congelés. N'ayant pas d'autre projet parental, n'arrivant pas à me résoudre quant à leur destruction, je ne sais quelle décision prendre. Quelles sont les lois concernant ces embryons? Je souhaiterais également savoir si ces embryons suspendus dans le temps vieillissent, ont-ils l'âge de la conception? L'équipe médicale qui nous a permis de réaliser notre souhait est absente pour toutes ces questions. Je vous remercie de votre aide. Alors, quelles sont les lois concernant ces embryons? Donc, au-delà de 5 ans, donc il y a 3 solutions s'il n'y a pas de projet parental. Soit ils sont adoptés par un autre couple, C'est à peu près 10 adoptions par an, donc des adoptions d'embryons. Soit ils sont donnés à la recherche, sur le consentement toujours. Hein. Ça, c'est les solutions qui sont sur le consentement, par consentement du couple. Soit ils sont donnés à la recherche, donc ces embryons-là, la recherche autorise, la loi autorise la recherche sur ces embryons-là, voilà, qui sont donnés à la recherche. Donc, il faut savoir aussi que quand c'est donné à la recherche, ça, les embryons sont forcément détruits. Voilà. Et soit ils sont détruits. Donc, clairement, ici, on parle d'embryons comme une simple chose, comme un objet de dont on dispose. Alors finalement, l'article 16 que je vous ai dit tout à l'heure, la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Où sont ces garanties? Et quelle est la protection juridique? Je ne sais pas. Et puis vous remarquerez aussi qu'on parle toujours des parents, les parents d'embryons. Hein? Et puis en fait, quand on est parents d'enfants, on n'est pas parents de choses. Donc il y a une incohérence aussi dans ce langage. Alors, quels critères pour discerner? Alors déjà, on a parlé des embryons surnuméraires, c'est une atteinte à l'intégrité physique, hein, à la dignité humaine. Il y a la fidélité. Alors, on n'a pas parlé dans les fécondations in vitro, il peut y avoir un donneur de gamètes. Le double donneur est interdit en France. On peut pas. Donc, il y a forcément un parent qui donne son gamète. Et puis, si l'autre conjoint ne peut pas donner, il reçoit d'un donneur. Alors, ça pose la question de la fidélité dans le mariage. Quand on se marie, on se promet fidélité, ce qui implique aussi de devenir père et mère l'un par l'autre, l'un de l'autre, quoi, à travers l'autre. Bon. Les conséquences psychologiques sont pas nulles quant aux parents qui est pas le donneur de gamètes. Enfin, hein, voilà, il y a déjà une asymétrie et puis aussi sur l'enfant. Bon, je vais passer vite. Le troisième critère, dissociation entre l'acte conjugal et la procréation. Voilà. Alors la procréation, il y a un acte de procréation alors qu'il n'y a pas d'acte sexuel, d'accord. Donc c'est ce lien qui est séparé, d'accord. C'est pas le lien. Il y a le lien dans une relation sexuelle. Il y a union et procréation. Il y a un lien entre la communion des époux et la procréation dans la réunion sexuelle. Là, c'est un autre lien qui est cassé. C'est une procréation. Voilà, on a enlevé la procréation de l'union sexuelle. Il n'y a pas d'union sexuelle. Donc il y a ce lien qui est cassé. On remplace l'acte conjugal par un acte technique. Alors déjà, on peut se poser la question, mais alors, qui procrée? À votre avis, qui procrée? Il y a une question comme ça? Bah voilà, très bien. Non? Qui procrée? Bon, bah oui. Le médecin, le laborantin, le technicien de laboratoire. Qui assiste le médecin à la procréation? Ben les parents, ils vont donner le matériel biologique, ils vont donner leur gamète. Alors finalement, même cette notion de assistance médicale à la procréation est une notion biaisée. Alors, il faut que j'aille. Donc, c'est intéressant de comprendre que l'enfant, il a aussi des droits et il a aussi un droit à être conçu dans son environnement naturel. Comme nous dit dans Donumbité, la procréation d'une personne humaine doit être le fruit et le terme d'un acte d'amour de ses parents à travers le langage de leur corps. Très important de pas enlever le corps. Sinon, il y a une atteinte finalement à la dignité de l'origine de la personne. L'origine de la personne, donc là vraiment cette procréation, elle est atteinte dans sa dignité propre. Alors bien sûr, je terminerai par, un autre critère qui est finalement pour nous croyants, la vie dans l'esprit. Voilà, supplions le Seigneur de nous guider dans nos démarches, dans nos décisions. Même si on ne comprend pas très bien ce que nous dit l'Église dans son magistère. J'ai une sœur de communauté là qui me disait, qui me donnait son témoignage, sortant d'une consultation en vue d'une FIV. Il y avait un tiraillement en moi, d'un côté ce désir profond d'accueillir un enfant, et de l'autre un malaise quant à la méthode et aux réserves que donne l'Église. Pour retrouver la paix, je priais pour demander au Seigneur quelle était sa volonté. Je lui ai dit clairement, si tu ne veux pas que j'aie recours à la fécondation in vitro, donne-moi une bonne raison à donner au médecin et donne-moi la force de vivre cette décision. J'étais tellement mal à l'aise que je suis allée me confesser. Quelques jours plus après, j'ai ressenti les premiers signes d'une grossesse. Le Seigneur nous répondait clairement. Ayant déjà eu des grossesses qui n'avaient pas été à terme, je ne savais pas si celle-ci irait à terme, mais le Seigneur nous répondait, la FIV n'était pas un chemin pour nous. 9 mois plus tard, naissait leur fils. Bon. Alors que faire quand l'enfant se fait attendre? Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler des naprotechnologies? Alors, ça commence à venir en France, ça s'est développé aux États-Unis et en Irlande. Ce sont des méthodes. Alors là, il y a vraiment une aide médicale à la procréation, une réelle aide médicale à la procréation. C'est-à-dire que le couple va être pris en charge dans sa globalité. On va soigner. S'il y a une stérilité ou une hypofertilité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans le couple. D'accord ? Et c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc le médecin, l'équipe médicale sera là pour essayer de voir la cause. Et les assister pour que eux procréent, voilà, de manière naturelle. Et entre autres, c'est basé sur les méthodes naturelles, la méthode Billings, qui a été très codifiée. Et comme ça, on peut suivre au jour le jour. Mais ça, c'est toi, tu fais ça, toi? Ah non, pardon. On suit la femme au jour le jour dans son cycle et on réajuste au jour le jour au niveau avec les dosages hormonaux pour aider la nature qui se fait pas très bien dans son corps pour l'aider à avoir une ovulation, etc. Et donc voilà, les chances de succès, c'est 40 à 50% de réussite. C'est quand même pas mal. Je vous ai pas fait remarquer, mais tout à l'heure pour les fécondations in vitro, à chaque tentative, il y a moins de 20% de succès. Alors, les femmes peuvent refaire d'autres tentatives pour arriver à avoir à peu près un couple sur deux à un enfant à la fin. Voilà, au bout du compte, c'est équivalent, mais là, il n'y a pas plusieurs tentatives. Là, cela dit, c'est aussi astreignant, hein, comme étonne. Mais voilà, ce qui est intéressant aussi. Alors, bon, après un échec de FIV, le taux de succès va diminuer. Voilà, c'est pas neutre de faire des stimulations ovariennes. Et par contre, pour les fausses couches à répétition, il y a 80% de réussite. Donc, si vous connaissez des femmes qui sont dans ces cas-là, n'hésitez pas, tapez sur le site fertilitycare.fr et vous aurez tous les renseignements. En ce moment, il y a des médecins en France qui se forment. Voilà. Il y a des monitrices entre les médecins et les couples pour apprendre à appliquer la méthode. Voilà, je terminerai par la parole de Dieu. Voilà, c'est une histoire de deux femmes enceintes qui se rencontrent. Marie vient de voir la visite de l'ange. Elle a la connaissance de sa cousine qui est à 6 mois de grossesse. Après le fiat de Marie, la parole nous dit « En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région de Montagneuse, voilà, dans une ville de Juda. » En ces jours-là, ça veut dire assez rapidement après. On ne parle pas de mois, là, on parle de jours. Et voilà qu'elle rencontre sa cousine Élisabeth, et en son sein, eh bien voilà, Jésus. Il a cette tête-là. Voici l'homme. Hein, c'est le thème de notre session. Voici l'homme. J'ai repris l'embryon de 3 semaines parce que je me disais que naturellement, donc la femme prend conscience qu'elle est enceinte à partir de 3 semaines. Ça peut être un peu avant, mais voilà. Et en présence de Jésus, qui est en Marie, Jean-Baptiste tressaille d'allégresse. Par ricochet, Élisabeth vit une effusion de l'esprit. Et sous l'impulsion de l'Esprit-Saint, elle s'écrie « Béni es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein. » Elle apprend à Marie qu'elle est enceinte. Quoi. Marie, elle n'a pas besoin de faire un test de grossesse, elle le sait de par sa cousine. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'elle dit « Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Sauveur ?» Donc, le Messie tant attendu, il y a une prophétie qui jaillit de Élisabeth et il lui dit « En plus, voilà, non seulement tu es enceinte, mais l'enfant que tu attends, c'est le Messie. » Et là, bien sûr, Marie, elle comprend à ce moment-là les paroles de l'ange et sous elle exulte de joie dans le Magnificat. Voilà. Mais tout ça s'est passé finalement à la source. Il y avait qui ? Il y avait la présence de Jésus. Et la présence de Jésus, voyez comme il est, embryon. Alors demeurons nous aussi, je pense, pour finir, dans la présence de Jésus. Et laissons-nous renouveler, voilà, par la vie même du Christ, afin que nous puissions avoir les paroles de vie et la parole de miséricorde. Voilà. Merci. Non, j'ai raté un truc. Je voulais vous faire un truc parce qu'en fait, il y avait Jean-Baptiste là, 6 mois. Voilà, c'était la communication entre Jésus et Jean-Baptiste. Voilà. Au niveau biologique, c'est assez proche, je pense.
Voilà, merci Yann. Bon, je ne doute pas que cet exposé soulève des questions parmi vous. Donc, ce que je vous propose, c'est de les noter sur des petits papiers. Et pendant qu'on les ramasse, on va commencer par répondre aux 2-3 questions que l'on avait hier. Alors, petite précision également. On est quelques-uns en fait à pouvoir peut-être en fait répondre aux questions. On répondra probablement pas à tout, d'abord parce que on n'est pas certain du tout de pouvoir le faire. D'autre part, on vous demande d'avoir la gentillesse de pas nous poser de questions personnelles, vous voyez, qui soient trop individuelles. On pourrait le faire de manière après en individuel, mais pas de manière collective. Donc voilà, parce que c'est plus. C'est plus juste de le faire de cette manière-là, voilà.
Oui, je vais revenir sur les questions qui ont été posées hier. On en a eu 6 ou 7, mais il y en avait 5 sur les embryons surnuméraires. Alors c'est aussi une question en fait pour l'exposé d'aujourd'hui, mais on va peut-être apporter une réponse déjà sur donc la question. Que conseille l'Église, finalement, l'action la plus générale hein, sur la survie, enfin pour les embryons surnuméraires hein. L'Église dit et répète que la production d'embryons surnuméraires est une impasse. Voilà, c'est sa position. Hein. À partir de là, elle ne se prononce pas sur la meilleure solution au problème. Hein. C'est une impasse. Donc, ce qu'elle recommande, en fait, c'est de ne pas en produire. Vous voyez, c'est la logique hein, du respect de la personne de l'embryon. Hein. On peut un tout petit peu développer en disant que toute solution à ce problème, et ben quelque part, c'est une participation hein, indirecte au mal qu'a représenté la production de ces embryons. Hein. En tout cas, et encore plus. Enfin, une solution qui exploiterait l'embryon, hein, qui le prendrait dans une perspective utilitariste, si vous vous rappelez ce qu'on a dit hier. Hein. Et on peut penser, bien sûr, au fait de donner ces embryons pour la recherche. Ah ben oui, ça va être très utile pour la recherche. Voilà, on va les utiliser. Hein. L'Église ne peut pas aller dans ce sens-là. Hein. Enfin, voilà. Voire même... Il y a une question sur la possibilité d'adopter. Hein. Est-ce que ce n'est pas aussi être utile pour des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants hein. Est-ce que ce n'est pas là aussi une approche utilitariste? La réflexion, elle est pour chacun. C'est des éléments. L'Église ne se prononce pas. Voilà. Hein. Par ailleurs... toute exploitation utilitariste peut aussi ouvrir la porte à la création d'une filière, ce qui serait vraiment rajouter un mal au mal, hein, une filière de production, alors que justement le souhait de l'Église, c'est d'arrêter de produire des embryons surnuméraires. Il y avait une question, oui, sur un petit papier sur les cellules souches, là aussi. C'est une perspective utilitariste, bien sûr. Les cellules souches, ça pourrait être très bien, mais on l'a dit aussi hier, ce n'est pas du tout démontré et ce n'est pas que les cellules souches embryonnaires ont un potentiel aussi extraordinaire que ça pour le bien-être des personnes. Mais comme on l'a vu hier, le bien-être d'une personne ne justifie pas qu'on sacrifie une autre personne de toute façon. Hein. Donc, il se trouve que pour les cellules souches, il y a des alternatives, hein, les alternatives de cellules souches adultes, qui elles sont éthiquement justifiées. La cellule souche embryon, l'embryon utilisé pour la recherche, l'embryon surnuméraire, c'est un petit embryon de à peine quelques millimètres qui contient une cinquantaine à 100 cellules, hein, qui sont encore totipotentes, hein, donc des cellules souches. Hein. Donc on peut, la recherche vise à les cultiver et à orienter la différenciation de ces cellules vers des cellules de cœur, par exemple, de muscles cardiaques, des cellules hépatiques, des cellules nerveuses, pour faire des thérapies cellulaires. Hein. Voilà. Mais il faut savoir que ce type de cellules existe aussi chez l'adulte, qui peut aussi être prélevé faire l'objet aussi d'études visant à les différencier. Et d'ailleurs, il y a eu des résultats il y a quelques années déjà, sur la reconstitution du muscle cardiaque à partir de cellules souches adultes. Hein. Donc il y a même presque plus de bons résultats avec des cellules souches adultes qu'avec des cellules souches embryonnaires. Il y a eu des essais cliniques à l'hôpital Necker qui ont dû être arrêtés parce que les cellules souches embryonnaires provoquaient des cancers. Hein. Elles sont tellement totipotentes, mais encore mal contrôlées, que du coup, elles se mettaient à proliférer chez l'enfant qu'on voulait soigner. Hein. Donc on joue vraiment avec le feu, avec les cellules souches embryonnaires. Et ce qui est prometteur aussi dans les cellules souches, c'est les cellules du cordon ombilical.
Les cellules du cordon ombilical, il y a des recherches qui sont faites sur ces cellules-là, et elles sont très prometteuses, ces recherches. Et par contre, en France, on n'arrive pas à collecter assez de cordons, alors que c'est quelque chose, on demande juste à la femme qui accouche si elle veut, parce que c'est quelque chose qu'on jette, hein, après le cordon ombilical. Donc c'est gratuit, tout à fait éthique, au point de vue éthique, il n'y a pas de problème. Et bien on n'arrive pas à récolter.
Et on se complète progressivement. L'an dernier, à la même type de carrefour, il y avait une dame enceinte qui nous a complètement dit qu'elle, donc, à l'annonce de sa grossesse, elle s'est renseignée. Et donc, dans toutes les régions de France, il y a donc maintenant des banques de dons de sang de cordon. Donc, quand une femme enceinte, voilà, si vous êtes enceinte et que vous allez consulter à l'hôpital, au CHU, vous pouvez demander dans votre région où est l'adresse à laquelle il faut s'adresser pour donner le sang de cordon. Voilà. Simplement, on a appris donc que ces cellules ne sont pas tout à fait équivalentes parce qu'elles pourront être utilisées pour donner des cellules pour les maladies sanguines. Voilà. Donc ça ne sera pas des cellules totalement pluripotentes qui peuvent être utilisées pour faire des cellules de muscles, des cellules nerveuses, mais en tout cas pour le sang. Donc c'est déjà quelque chose de concret qui répond en partie d'ailleurs à la question qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Ça c'est très, très concret. Et puis c'est à faire connaître, parce que c'est assez peu connu. Donc finalement, on peut aussi transmettre l'information aux amis enceintes autour de nous, aux femmes enceintes. Voilà.
Terminé sur les embryons surnuméraires, on a vu que la recherche c'était une approche utilitariste, l'adoption dans un certain sens c'est aussi une approche utilitariste. On parle de destruction. Alors quand on parle de destruction, eh bien je pense qu'on les considère comme des objets. Et si on les considère comme des personnes et qu'on se résout à ne pas les laisser survivre dans cet état-là, eh bien, il faut dire, et l'expression est utilisée, les laisser mourir. Hein. Donc, on ne va pas détruire ces embryons surnuméraires, mais peut-être qu'on va simplement les laisser mourir, hein, et ne pas, finalement, leur imposer des souffrances qu'ils n'ont pas demandées. Voilà. Les laisser mourir, c'est justement, on va les décongeler, hein. On va les... Ah oui, mais on détruit pas une personne. Voilà. Non, c'est l'équivalent, mais voilà, c'est quand même une question de vocabulaire et de respect de la personne. Tout à fait. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on ne dit pas que c'est bien. C'est parce que de toute façon, Voilà, la position, c'est d'arrêter d'en produire.
Oui, on revient aux recommandations de l'Église de ne pas produire ces embryons surnuméraires parce qu'il n'y a pas de solution idéale. Hein. Dans la foi, ce qu'on peut envisager, puisque nous avons la foi, c'est de permettre à ces enfants d'entrer dans la vie éternelle.
Les Écosses, les centres de conservation, demandent tous les ans aux parents concernés quel est leur projet. Hein, pour, donc je pense que si les parents disent qu'ils veulent en faire quelque chose, ce sera... Donc, la salle dit, ce n'est pas si simple, juridiquement. On passe peut-être à juste deux petites autres questions. Que répondre aux gens quand ils nous taxent de moralistes et de rétrogrades ? Quand on nous dit que bien et mal, c'est du domaine de la religion, et donc que c'est quelque chose de personnel. Alors, je pense que nous taxer de moraliste et de rétrograde, il faut répondre toujours par une question. Hein. Qu'est-ce que c'est moraliste? Qu'est-ce que c'est rétrograde? Hein. Et si moraliste, c'est choisir le bien et faire des actes bons, eh bien, qu'est-ce que c'est pour vous un acte bon, etc. Hein. Donc, je crois que ces questions-là, qui peuvent être peut-être agressives, eh bien, essayons de les retourner vers un progrès de la réflexion des gens. Hein. Qu'est-ce que c'est pour vous? Et je termine juste ma réponse, mais les autres vont compléter. Et par rapport bien et mal, c'est quelque chose de personnel. Là, je vous renvoie à ce qu'on a dit hier sur l'approche individualiste. Hein. Typiquement, c'est le mode de pensée. Ah ben, le bien et le mal, c'est moi qui décide. Hein. Et donc là, peut-être essayer de leur dire, oui, d'accord, voilà, tu raisonnes en individualiste, peut-être. Mais on est tous des personnes, hein. C'est-à-dire qu'on est tous des êtres humains. C'est-à-dire qu'on a quelque chose en commun, hein, c'est notre nature humaine, hein, et donc on peut tout à fait ensemble chercher un bien commun. Hein. Ça, c'est des pistes pour dire, ben oui, bien sûr, le bien, le mal, tu penses, toi, que chacun doit décider, hein, mais tu es une personne, je suis une personne, nous avons quelque chose en commun, et il y a peut-être un bien commun, et on peut peut-être discuter là-dessus.
Alors, on a vu hier qu'on était dans une société où on était... manipulé par le discours affectif, émotionnel. Et moi, j'étais, par curiosité, tout à fait en surfant sur Internet, j'ai été visiter le site ivg.com. Après, j'ai appris que c'était des chrétiens qui l'avaient créé. Mais le site ivg.com, c'est un site tout bête qui laisse les femmes qui ont avorté la possibilité de témoigner sur le site. Donc j'ai été lire les témoignages. Il y avait des témoignages de femmes catholiques, donc qui s'étaient orientées de manière religieuse, mais il y avait beaucoup plus de témoignages de femmes absolument pas croyantes, ni athées essentiellement, ou d'origine musulmane, ou d'autres origines. Et j'ai été percutée par le discours unique qui ressortait de tous ces témoignages, qui était la souffrance morale liée aux mensonges de la société. C'est-à-dire que ces femmes qui n'avaient ni foi ni loi en voulaient, mais étaient très en colère après la structure sociale qui les avait entraînées à avorter sans les prévenir des conséquences douloureuses sur leur vie personnelle. Donc en fait, ces femmes souffraient énormément. Elles avaient pris ça en pleine figure parce qu'elles n'étaient pas préparées par tous les entretiens qu'elles avaient eus, qui sont en général très très courts et très très succincts. Et elles reprochaient en finale à la société de ne pas les avoir préparées à encaisser cette douleur morale. Et quelle était cette douleur morale? Là aussi, ça m'a surprise. C'est la douleur qui est en fait universelle et intrinsèque à la structure humaine, qui est celle d'avoir renoncé à la vie. Celle du renoncement à la vie qu'elles avaient en elles. Parce que quoi qu'elles fassent, à partir du moment, même si elles prennent la pilule du lendemain, intentionnellement elles la prennent pour, au cas où il y aurait une vie, faire passer cette vie. Donc aucune ne sont dupes de cette réalité. Quelle que soit la manière dont l'organisme physique est secoué par l'épreuve chimique, ou peu importe, hein, on comme disait excuse-moi Anne tout à l'heure, il y a beaucoup de perfectionnement dans les techniques de mort entre parenthèses qui sont proposées, qui font que c'est de moins en moins coûteux physiquement, de moins en moins risqué d'avancer dedans, mais ça n'enlève pas le point de départ précis qui est celui de je supprime la vie en moi. Or, dans le corps de, et dans l'esprit et dans la personnalité de la femme, accueillir la vie, c'est une joie qui n'est pas qui n'est pas contrôlée. Elle est intrinsèque à la personne. Et toutes ces femmes-là qui n'avaient aucune formation religieuse, qui n'étaient pas croyantes, vivent de plein fouet cette douleur d'avoir renoncé à la vie parce que l'entourage sociétal et la société et les lois ne les avaient pas préparées à cette douleur.
Dites-moi si je fais un faux raisonnement. Plaçons-nous le jour de la naissance. Un quart d'heure après la naissance, je suis frappé de ce qu'on entend sur les clauses de conscience des chefs de service. Un quart d'heure après la naissance, si à la demande des parents, un chef de service met un terme à l'existence d'un enfant trisomique, il s'expose à un risque pénal, il devient un meurtrier, et il peut faire 15 ans de prison. Un quart d'heure avant la naissance, si je refuse de mettre un terme à l'existence, je m'expose à un risque pénal, dont je ne connais pas les conséquences, mais je suis face à un risque pénal. On est dans un niveau d'aberration absolue, un niveau d'hypocrisie explicite ou implicite absolument phénoménal. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas provoquer les esprits et au nom de la cohérence du système, fédérer des associations pour proposer de déposer, je suis très sérieux, un projet de loi au Parlement qui viserait à permettre, pour un enfant trisomique ou autre, de faire une interruption de vie tout au long de la vie. Ça déclencherait un débat phénoménal. Et donnons-nous une demi-heure au Parlement, une demi-heure de plus, laissons un enfant naître, écoutons ses premiers cris, regardons son visage, et puis décidons de le tuer. Mais au moins, on serait face à notre responsabilité au niveau de la société. Un quart d'heure avant, la société se donne la possibilité de le faire, c'est plus un fœtus, c'est plus un embryon, c'est un bébé. Un quart d'heure après, on n'a plus le droit de le faire. Et ça pourrait être, il y a peut-être des façons un petit peu d'exploiter ce paradoxe et de provoquer de mettre ce type de sujet sous les feux de la rampe. C'est une idée que j'avais. Je ne sais pas ce qu'elle suscite chez vous.
À l'étranger, alors j'ai pas le souvenir de l'information exacte, mais sur l'adoption, je me transpose sur l'adoption. Je ne sais pas si c'est en Hollande ou en Suède, il y a des parents qui ont demandé à rendre l'enfant adopté un an ou deux ans ou trois ans après l'adoption parce que l'enfant était insupportable et ne correspondait plus à leurs demandes. C'est hallucinant, mais ça s'est pratiqué. J'ai entendu l'info il y a moins de deux mois.
Pour les mères porteuses aussi, ça s'est pratiqué. C'est-à-dire qu'on commande un enfant, une femme porte l'enfant et l'enfant naît. Et en fait, le couple qui a commandé l'enfant n'en veut plus.
En termes de stratégie de défense de la vie, pour répondre monsieur, je pense qu'il faut toujours veiller dans les arguments et les techniques qu'on va utiliser à toujours prendre des moyens qui vont quand même être positifs. Là, ce que vous induisez comme raisonnement, il y a un petit côté un peu qui peut être détourné de manière perverse. Et d'ailleurs, le médecin Peter Singer, dont on a parlé hier, lui, ça gêne pas de le faire vraiment. Voilà. Donc c'est un petit peu dangereux. Moi, j'aimerais mieux qu'on appuie sur le fait que, par exemple, on dépense des sommes et une énergie folle pour sauver des grands prématurés et d'attirer plutôt l'attention de l'opinion sur le fait qu'on se donne beaucoup de mal pour sauver des enfants à 6 mois de grossesse, parce que là, eux, ils sont désirés, et qu'au même âge, on ne se gêne pas pour en supprimer d'autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt de nature à émouvoir, peut-être, dans le bon sens. Voilà.
Le subsidiaire, c'est de se battre pour le statut du fœtus. Il faut qu'il soit reconnu comme une personne juridique. Mais ça, c'est un long combat.
Où est-ce qu'on peut trouver une consultation d'un apro-technologie en France? Pour l'instant, il y a encore peu de médecins. Il y a un médecin à Nantes. Oui, attends. Le docteur, donc à Nantes, c'est le docteur Christelle Leménager. Et il y en a un à Aix, lié à la maternité des petites sœurs catholiques de l'Étoile. Son nom, c'est Anna Duretto. Et puis, il y en a pas mal d'autres qui se préparent, qui sont en formation, donc ça devrait se multiplier. Mais même si dans votre région il n'y en a encore pas, vous pouvez aller sur le site internet, parce que par contre, dès maintenant, il y a des instructrices qui sont quand même beaucoup plus nombreuses sur l'ensemble du territoire, parce que l'ANAPRO repose sur un couplage entre un médecin qui fait le suivi des examens biologiques, les traitements, et puis une instructrice en complément qui aide la femme et le couple à faire une observation extrêmement fine du cycle de fertilité. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment le couplage entre les deux qui agit, c'est-à-dire de l'analyse très fine de l'observation du cycle, on le complète par des examens biologiques, des examens médicaux, et en fonction des diagnostics, alors différents traitements sont indiqués. Donc le médecin, il n'intervient pas en continu, donc il y a aussi des couples qui vont parfois même consulter en Irlande pour l'instant, il y a aussi des médecins en Suisse et en Irlande.
Alors moi, là, j'ai une question. Est-ce que vraiment vous considérez que les examens pendant la grossesse sont si neutres que cela ? Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un acte neutre. Cela dit, en fait, bon, je vais reprendre juste. Nos actes humains ne sont jamais neutres, d'accord ? À partir du moment où on fait un acte, il est bon ou il est mauvais, ou il n'est pas très bon, pas très mauvais, mais il n'est jamais neutre. Sauf nos actes, réflexes et tout ça, mais voilà. Donc les diagnostics prénatals, l'acte en lui-même est neutre. Après, nos actes humains, je vous ai dit tout à l'heure, il y a dans un acte humain, il y a la finalité, l'intention, et il y a les moyens pour exercer l'acte, d'accord ? Donc là, diagnostic prénatal, le moyen pour exercer l'acte, il est neutre, pas voilà. Mais ce qui va donner une moralité à l'acte, de toute façon, on va poser un acte de diagnostic prénatal et celui-là, il sera jamais neutre. Et ce qui donne la moralité de cet acte-là va être dirigé par l'intention. Dans quelle intention je fais cet acte-là ? Est-ce que c'est en vue de détecter une trisomie 21 et d'avorter après ? Ou est-ce que c'est en vue de diagnostiquer une maladie génétique ou un morphologique pour essayer d'avoir une visée thérapeutique sur l'enfant ? Voilà. Dans quelle intention ? De toute façon, tous les diagnostics prénataux, enfin voilà, tous ces actes-là qui sont pratiqués, ne sont jamais neutres en réalité, quand on effectivement. Vous voyez ce que je veux dire ? La neutralité, non.
Brièvement, un petit témoignage. Ma femme a eu son dernier enfant à 40 ans. Et donc, comme c'était une grossesse à risque, elle a été prise en charge par un médecin spécialiste des grossesses à risque. Et pendant toute la grossesse, il essayait de la convaincre de la nécessité de la myosynthèse. Donc il y a une prise de sang qui a été faite, qui n'orientait pas vers la trisomie. Elle n'a pas été faite. Alors elle a dit, on la fera si l'échographie était normale. L'échographie était normale. Mais, faute de pouvoir faire cet examen, il a inventé un diabète gestationnel. Donc pendant toute la grossesse, puisque de principe c'était une grossesse à risque, il essayait de démontrer que ça allait mal se passer et qu'elle avait eu vraiment tort de démarrer une grossesse à 40 ans. Gloire à Dieu, Lucie est née, tout à fait normale, et elle a 13 ans et elle est à la session. Gloire à Dieu.
Oui, enfin, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais le test sanguin, on vous le propose systématiquement. Vous pouvez vraiment dire, en fonction de si vous accueillez quel que soit l'enfant, vous pouvez très bien dire non, je ne ferai pas ce test et on ne peut rien vous reprocher. Même vous n'êtes pas obligé de signer quoi que ce soit. En général, on vous fait signer une feuille, mais ça n'a pas du tout de valeur juridique. Donc, vous pouvez dire au médecin, ne me faites rien signer. Voilà. Parce que là aussi, il y a une mine de rien. Quand on signe quelque chose en bas de la page, et ben tout d'un coup, on a les chocottes, on se dit, oh là là, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Vous êtes tranquille, vous êtes libre, vous ne signez rien. Si vous voulez pas le faire, vous ne le faites pas.
Voilà. Donc il y a quand même une mobilisation de la Fondation Jérôme Lejeune et aussi d'un comité de médecins par rapport à ce test, puisque ce qui va se passer, c'est que comme c'est un test relativement simple, un simple test sanguin. Pour le nouveau, excusez-moi. Voilà, le nouveau test qui pose une question, c'est qu'il est tellement simple, il va être proposé à toutes les femmes. Bon, sous la pression de leur médecin, quelle femme finalement refusera une simple prise de sang où on lui dira, mais vous savez, c'est tout simple, ça vous permet de voir si éventuellement votre bébé n'aurait pas une malformation. Donc, quelle femme finalement résistera à ça? Et ce qui fait que la détection, elle sera systématique. Donc, le problème, c'est qu'on va aboutir à une élimination à 99%, notamment des trisomies 21. Donc, c'est un peu la nouvelle question éthique qui va se poser dans l'année qui vient.
J'y connais pas grand-chose, mais est-ce qu'une femme enceinte, quand une femme est enceinte, est-ce qu'elle n'a pas au cours de sa grossesse une prise de sang aujourd'hui ?
C'est un test spécifique et de toute façon, on ne peut pas demander, on ne peut pas faire un test, normalement, sans l'accord de la personne. On ne peut pas demander, par exemple, une sérologie HIV si la personne n'est pas d'accord pour que l'on demande la sérologie HIV. On ne pourra pas demander un test de dépistage de la trisomie 21 si jamais la personne s'y oppose. Mais on peut effectivement faire sur l'ordonnance une batterie de tests et mettre celui-là dedans sans le demander. Bon, la personne peut s'y opposer, mais encore faut-il qu'elle soit informée.
C'est-à-dire que, de manière fort juste, le président de la Fondation Jérôme Lejeune dit d'abord il y a des enjeux financiers énormes parce que la société qui vend le test, ça concerne toutes les femmes enceintes dans chaque pays. Donc il dit que c'est le salaire de la peur. Parce que quelle femme va refuser une prise de sang supplémentaire que son médecin va lui proposer au bas de l'ordonnance? Qui va le refuser? Voilà. Et puis ensuite, comme il dit, c'est la première fois en France qu'un système se met en place pour éliminer 99% d'une population. C'est-à-dire que ce qui arrivera derrière, c'est que systématiquement, on va entrer dans un système, si vous voulez, de plus en plus simple au niveau technique, parce qu'on dit que c'est un test non invasif, il n'y a plus le problème de l'amniocentèse qui pouvait faire reculer. Voilà.